Et tu savais qu'il y avait une expo sur Paris sur une femme méconnue de l'histoire en printemps dernier ?
Non, c'est qui ?
Claudette Colvin.
Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique, calmez-vous.
Tout le monde s'adresse au ministre en disant « Bonjour, monsieur le ministre » et à moi en disant tout simplement « Bonjour ».
Les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire.
Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place.
Ça n'est quand même qu'une nana.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Claudette Colvin. Donc, c'est une femme afro-américaine née le 5 septembre à Montgomery en Alabama et elle a subi la ségrégation raciale aux États-Unis. Donc avant de commencer, il est important de rappeler que les faits ont eu lieu dans ce contexte-là. Donc la ségrégation raciale, c'est le fait que des populations étaient séparées par des critères raciaux, la couleur de peau notamment. Et cette politique raciale a été mise en place dans les États du sud des États-Unis, principalement entre 1877 et 1964. Elle apparaît peu de temps après que l'abolition de l'esclavage ait été adoptée. À ce moment-là, la Constitution des États-Unis avait proclamé l'égalité des droits civiques des Afro-Américains. Et pourtant, dans certains États, les lois de ségrégation avec l'idée de « séparer mais égaux » naissaient pour contourner ces amendements.
Notamment dans les transports. Et Déborah, quelles étaient les règles dans les transports en commun qui séparaient les Noirs et les Blancs ?
Donc en fait, dans les transports, les 10 premiers rangs étaient pour les Blancs et les rangs suivants étaient pour les Noirs, mais un Blanc ne pouvait pas rester debout. Donc s'il était debout, un Noir devait lui céder sa place. Et comme un Blanc ne peut pas s'asseoir à côté d'un Noir, alors c'était toute la rangée qui devait se lever. Et il était possible aussi que le chauffeur ait une arme et qu'il tire sur la personne noire qui n'obtempérait pas. Et sinon, il pouvait aussi appeler les policiers directement et c'était probable de ne jamais arriver en vie au commissariat.
Aujourd'hui, on va vous parler de Claudette Colvin qui... Et la fille de Mary Jane Gatson et de C.P. Austin. Elle est née sous le nom de Claudette Austin, mais qu'elle ne portera pas car sa mère est dans l'incapacité financière de faire face à son éducation. Et donc elle est adoptée et élevée avec sa sœur Delphine par sa tante Marianne Colvin, une femme de ménage, et par son oncle, un gazonnier. Elle va grandir dans le quartier pauvre de la banlieue de Montgomery, en Alabama. Et les Colvin vont vivre à Pineville, une petite ville de campagne dans le comté de Montgomery. Et donc c'est dans la même ville où Rosa Parks a grandi. Plus tard, lorsqu'elle était âgée de 8 ans, les Colvin ont déménagé à King Hill, un quartier noir pauvre de Montgomery, où elle a passé le reste de son enfance. Deux jours avant le 13e anniversaire de Claudette, sa petite sœur Delphine est décédée de la poliomyélite, qui est une maladie infectieuse qui paralyse un membre du corps. En septembre 1952, elle suit des études secondaires à Booker T. Washington Magnet High School. Et bien qu'elle soit une bonne élève, la jeune fille avait du mal à se lier avec ses camarades à l'école en raison de son chagrin. En même temps, elle venait de perdre sa sœur. Et elle est aussi également membre du NAACP Youth Council, qui est l'organisation américaine de défense des droits civiques. Et donc ça nous montre quand même qu'elle a assez jeune, elle a un intérêt important pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs, ce qui est complètement compréhensible. Et donc c'est dans cette école-là qu'elle va nouer une relation étroite avec son mentor Rosa Parks. Ensuite, elle va être élève à l'école secondaire Booker T. Washington High School de Montgomery, un établissement ségrégationniste où elle étudie Sojourner Truth, qui est une réformatrice qui figure parmi les abolitionnistes afro-américaines engagées, ainsi qu'une militante pour le droit des votes, enfin, du droit de vote des femmes noires et blanches au début du 19e siècle, et Harriet Tubman, qui est une militante américaine en faveur de l'abolition de l'esclavage des Afro-Américains, puis militante contre le racisme et le féminisme au milieu vers la fin du 19e siècle. Donc elle est très intéressée par cette question de l'engagement et elle s'intéresse beaucoup à des femmes noires qui ont marqué le temps.
Vous connaissez sûrement l'histoire de Rosa Parks. Eh bien, Claudette Colvin a été la première à avoir ce geste de ne pas céder sa place. Margot, tu peux nous en dire plus.
Le 2 mars, Claudette Colvin monte avec 3 autres élèves afro-américains dans le bus au retour de l'école. Elle est alors assise à 2 rangs de la sortie de secours quand des Blancs montent. Le chauffeur, Robert Clear, lui demande à Claudette ainsi qu'à 3 autres femmes noires de s'arranger de se déplacer vers l'arrière. Claudette Colvin refuse de céder sa place à cette femme. Une autre femme noire, Russell Mitton, qui était enceinte à l'époque, se met à côté de Colvin. Le conducteur a regardé les femmes dans son rétroviseur. Je cite. Il nous a demandé à toutes les deux de nous lever. Miss Hamilton a dit qu'elle n'allait pas se lever, qu'elle avait payé son billet et qu'elle n'avait pas envie de rester debout, se souvient Colvin. Je lui ai dit que je n'allais pas me lever non plus. Il m'a dit. Si vous ne vous levez pas, je vais aller chercher un policier. Le chauffeur du bus s'arrête, fait appel à la police. Des policiers, Thomas Ward et Paul Haday, montent dans le bus, questionnent Claudette sur ses raisons et son entêtement. La police a convaincu un homme noir, assis derrière les deux femmes, de se déplacer pour que Russ Hamilton puisse reculer. Mais Claudette refusait toujours de bouger. Les deux policiers lui réitèrent l'ordre de quitter sa place. Les négociations n'aboutissent pas. Claudette Colvin est expulsée du bus par deux policiers qui la mettent en état d'arrestation et la menottent. Lorsque Colvin a refusé de se lever, elle pensait à un devoir scolaire qu'elle avait écrit ce jour-là sur les coutumes locales qui interdisaient aux Noirs d'utiliser les cabines d'essayage afin d'essayer des vêtements dans les grands magasins. Elle proteste et crie en déclarant que ses droits constitutionnels avaient été violés. « Nous venons d'étudier la Constitution. Je sais que j'ai le droit. » Elle est mise en prison et accusée. Il faut savoir que son arrestation précède de 9 mois celle de Rosa Parks, qui a eu lieu le 1er décembre 1995 pour le même délit.
Ensuite a eu lieu le procès de Claudette Colvin. Donc il y a eu une première instance. Une fois au procès, des témoins blancs vont dire que Claudette a provoqué les policiers. Elle va être jugée, donc non pas avec les lois de la ville, mais celles appliquées en Alabama. Et dans cette loi, il est dit que c'est le chauffeur qui dit où les personnes s'assoient dans le bus. Elle est donc jugée pour 3 accusations. Premièrement, trouble à l'ordre public, violation de la loi et agression à l'égard des représentants de l'ordre. Elle va faire appel pour contester ce jugement et c'est pourquoi il y aura une deuxième instance. Et lors de cette deuxième instance, les deux chefs d'accusation qui permettaient la mise en place du jugement à la Cour fédérale sont retirés de l'affaire. Cela fait donc disparaître le porté antiségrégationniste de son dossier et ce casier judiciaire l'empêchera quand même d'atteindre son rêve de devenir avocate. L'incident est intervenu dans la même ville et sur la même ligne de bus que Rosa Parks et pourtant il est moins connu et minoré. La NAACP, dont Margot a parlé tout à l'heure, qui est l'Association Nationale pour les Gens de Couleur, voulait utiliser cette injustice pour plaider la cause de l'association. Cependant, les parents de Claudette Colvin n'aimaient pas trop l'agitation autour de l'incident et pour eux, leur fille devrait se concentrer sur ses études. D'autres raisons font que la NAACP ne la prend pas comme visage de leur lutte contre les lois de la ségrégation. Elle serait jugée comme trop noire, selon eux. Claudette Colvin a même dit « Ma mère m'a dit de rester silencieuse sur ce que j'ai fait. Elle m'a dit « Laisse Rosa Parks être la bonne. Sa peau est plus claire que la tienne et les Blancs l'aiment bien. » La NAACP refuse une autre adolescente, d'ailleurs, qui a aussi refusé de céder sa place dans le bus, Mary-Louise Smith, et des rumeurs couraient que son père était alcoolique. Du coup, pour eux, il leur fallait une personne vraiment irréprochable, car le passé et la vie de la femme qu'il choisirait serait fouillé de fond en comble par les leaders antiségrégationnistes.
En effet, Margot Adler, une journaliste à la NPR, déclare que les organisations noires pensaient que Rosa Parks serait une meilleure représentante de l'intégration car elle était déjà adulte, elle avait un travail et donnait l'image de la classe moyenne et ils estimaient aussi qu'elle avait la maturité nécessaire pour se trouver au centre d'une éventuelle polémique. Mais c'est important de préciser qu'en fait à ce moment-là, elle était au lycée et elle n'avait que 16 ans. Elle était d'ailleurs enceinte, ce qui n'était pas acceptable à l'époque. Et d'ailleurs, ce qui explique aussi pourquoi elle ne s'est pas levée. Mais en fait, son acte va avoir un grand impact dans son lycée. Elle nourrissait de grandes ambitions d'activité politique. Elle était quand même assez connue pour son caractère, pour son opinion politique, pour sa volonté de s'affirmer. Aussi, Colvin a déclaré qu'elle était considérée comme un fauteur de troubles par de nombreux membres de sa communauté. Elle s'est vite ensuite retirée de l'université et a lutté localement. Donc son action, comme elle a dit Déborah, elle a été éclipsée par celle de Rosa Parks et son geste a été redécouvert seulement au début du XXIe siècle et valorisé et jugé décisif. Ainsi, Fred Gray, son avocat, déclare le 1er mars 2009, dans une interview donnée au magazine Newsweek, « Claudette nous a donné à tous un courage moral. Si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, je ne suis pas certain que nous aurions pu mener à bien le soutien à Madame Parks. » En fait, contrairement à Rosa Parks, Claudette Colvin, elle a vite été oubliée. En fait, elle a vécu une vie assez difficile. Parce qu'en fait, à ce moment-là, donc à 17 ans, elle était enceinte et elle donne naissance à un fils. Et à ce moment-là, elle est renvoyée de l'école. Donc elle doit quitter l'Alabama pour New York en 1958 parce qu'elle rencontre des difficultés à trouver et à garder un emploi à Montgomery. Après toute cette affaire, après toute sa réputation, cette affaire juridique, etc., ça lui a porté préjudice. Donc c'est à New York qu'elle et son fils Raymond ont d'abord vécu avec sa sœur aînée, Velma Colvin. Puis elle débutera en 1969 son travail de nuit d'aide-soignante au sein d'une maison de retraite dans le quartier de Manhattan. Et elle va prendre sa retraite en 2004 après 35 ans de service. De sa vie et de ses rêves de devenir avocate, parce qu'en effet c'était son rêve en tout cas d'avoir un métier engagé qu'elle n'a pas pu faire malheureusement, elle dit « Oui, je suis déçue. Au moins, mes petits-enfants ne devront pas souffrir ce que j'ai souffert. » Et selon le Montgomery Advertiser, Claudette Colvin dit qu'elle ne regrette pas sa décision de ne pas s'être levée. Je suis fière de ce que j'ai fait. Je pense que ce que j'ai fait a été une étincelle et que cela a pris.
Aujourd'hui, ce qui fait qu'on a redécouvert son histoire, c'est grâce à un écrivain, Philip Hughes, qui est parti à sa recherche et qui lui a demandé de prendre la parole sur ce qui lui était arrivé. Il a du coup raconté toute son histoire en 2009 dans son livre intitulé « Claudette Colvin, Twice the World Justice ». Je vais maintenant vous parler de l'exposition de réalité virtuelle au centre Georges Pompidou à Paris, qui s'est déroulée du 21 avril au 29 mai 2023 et qui s'intitulait « Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin ». En fait, c'est une adaptation du livre Noir de Tania de Montaigne qui a été transposée en réalité virtuelle avec des hologrammes. Le spectateur est complètement plongé dans l'histoire avec un casque de réalité virtuelle. Il voit les acteurs qui jouent les rôles de Claudette Colvin, le chauffeur du bus, les policiers et autres. L'exposition a connu un grand succès et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu le nom de Claudette Colvin et qu'aujourd'hui on en parle dans ce podcast. 10 personnes maximum pour l'exposition qui durait 30 minutes, ce qui permettait un confort visuel. Cette installation immersive est aussi appuyée de sons et de musique qui renforcent l'effet dramatique de l'affaire et permettent de s'y plonger pleinement. On peut entendre du Nina Simone, du Mahalia Jackson ou encore Ray Charles. J'espère que cette expo sera réitérée car j'ai vraiment vraiment envie de la voir et je m'en veux de ne pas avoir pu y aller.
T'inquiète pas Déborah, tu pourras y aller je pense un jour. Elle va recevoir la reconnaissance longtemps après. Par exemple, le 20 mai 2018, le membre du Congrès Joe Crowley a rendu hommage à Claudette Colvin pour son long engagement dans le service public avec un certificat du Congrès et un drapeau américain. Encore une fois, je cite une phrase qu'elle a dit « Je ne pense pas qu'il y ait de la place pour beaucoup d'autres icônes. Je pense que l'histoire n'a de la place que pour certaines. Vous savez combien d'icônes pouvez-vous choisir ? Vous savez, je pense que vous comparez l'histoire comme la plupart des historiens disent que Colomb a découvert l'Amérique et qu'elle était déjà peuplée. Mais ils ne le disent pas correctement. Il devrait dire que pour les Européens, c'est vous savez, leur découverte du nouveau monde. Donc en fait, ils vont se battre, sa famille va se battre pour la reconnaissance de son action. En 2016, la Smithsonian Institution et le Musée national de l'histoire de la culture afro-américaine ont été interpellés par Claudette et sa famille, qui ont demandé qu'elle soit davantage mentionnée dans l'histoire du mouvement des droits civiques. Le NMAAHC a une section consacrée à Rosa Parks que Claudette ne veut pas voir disparaître, mais l'objectif de sa famille est de faire en sorte que les archives historiques soient correctes et que les responsables incluent aussi l'histoire de Colvin. Ce dernier n'a d'ailleurs pas été invité officiellement pour l'inauguration officielle du musée qui a ouvert au public en septembre 2016. Et suite à tous ces mouvements de reconnaissance, etc., je me suis aussi posé une question. Est-ce qu'on agit pour nos valeurs ou pour obtenir une reconnaissance derrière ? Parce que finalement, Claudette Colvin n'a peut-être pas eu la reconnaissance qu'elle méritait, en tout cas au début, mais est-ce que c'était vraiment ce qu'elle souhaitait ? De marquer l'histoire et d'être vue, être acclamée par tout le monde. Je pense qu'il y a une distinction entre les deux. Et que personne n'est seul, il y a toujours des personnes autour.
Maintenant, on va vous laisser avec la chronique de Mélissa, qui parle des combats actuels des Noires américaines maintenant aux États-Unis et de l'effervescence dans les médias.
Merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.
Au revoir.
Coucou, c'est Mélissa. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la représentation des femmes noires dans les médias. Imbécile, tu t'es fait berner, je ne suis entourée que d'incapables. Cette phrase t'est sûrement familière. Elle provient de la célèbre antagoniste Caraba la sorcière du film d'animation Kirikou et la sorcière. L'hashtag Caraba a été déjà utilisé plus de 100 millions de fois. Sur fond d'un extrait sonore remixé, des femmes noires célèbrent fièrement leur mélanine et leur beauté africaine face à la caméra. Ces femmes tentent de légitimer la féminité noire. En effet, les marqueurs racialisés associés aux femmes noires comme les cheveux crépus, le nez ou les fesses ne sont valorisés que quand ils sont dissociés des corps noirs. En parlant de la représentation des femmes noires dans les médias, un scandale a éclaté dernièrement, avec un nouveau tweet du journal satirique Charlie Hebdo, le 18 octobre dernier, qui caricaturait de manière exagérée Danielle Obono, la députée de la France Insoumise. On peut y lire « Gaza, Israël, la paix, c'est possible. La France échange Obono contre les otages israéliens. » Le groupe La France Insoumise a dénoncé un retour en force des caricatures négrophobes et antisémites des otages israéliens. Obono, qui avait déjà été victime de racisme par le journal d'extrême droite Valeurs Actuelles, lorsque 2 salariés avaient publié une fiction de 7 pages dépeignant la députée LFI en esclave. Ainsi, les femmes noires sont toujours cantonnées à des rôles bien définis dans les médias et sont bien souvent absentes du paysage médiatique français. L'enjeu des prochaines années est de rendre les écrans plus colorés et de répondre au manque de visibilité médiatique des minorités ethniques. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique avec moi.